voix nue. Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Hervé Di Rosa. Ce soir, directeur du MIAM, Musée international des arts modestes.
Bonsoir Hervé Di Rosa. Nous nous retrouvons ce soir, déjà pour la dernière fois cette semaine.
Oh, c'est triste ça.
Bah oui. Nous sommes dans votre atelier, toujours près de la gare du Nord à Paris, pour parler d'un aspect bien particulier de votre recherche artistique, le Musée international des arts modestes. On l'appelle le MIAM. Vous l'avez créé en l'an 2000 et le présidez toujours aujourd'hui. Vous y montrez votre collection d'art modeste, cette notion vagabonde que vous avez inventée et dont vous nous parliez hier soir. On peut aussi y voir la collection de votre cofondateur, Bernard Belluc, dont vous nous avez évoqué le nom aussi, et un grand nombre d'expositions conçues par des commissaires que vous invitez. C'est un projet pharaonique, une véritable utopie en acte. Il s'agit peut-être d'une de vos œuvres, j'espère que vous allez nous en dire un mot. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le MIAM fête ses 20 ans et c'est l'occasion pour vous d'une nouvelle réflexion sur ses orientations dans notre monde contemporain en pleine mutation. Commençons par le début. Comment, tout simplement, l'idée de créer le MIAM vous est-elle venue? Hervé Di Rosa, est-ce que vous aviez des modèles?
Non, c'est une petite pyramide, déjà. Une petite pyramide. Mais c'est vrai que les années 90, fin des années 80, début 90, et dans les années 90, à 7 aussi, je m'aperçois qu'il y a des choses qui se font. Il y a un centre d'art qui est créé, mais qui reprend un peu les mêmes conceptions de centre d'art que j'en ai vu par ailleurs. Et puis j'ai surtout Pierre-Jean Galdem, qui avait créé le premier centre d'art en France en 81 à Labège, à côté de Toulouse.
Et qui dirige aujourd'hui l'école d'art de Nantes.
Et qui est directeur de l'école des beaux-arts de Nantes aujourd'hui. Et qui lui était très intéressé par cette idée d'art modeste, etc. Et donc il crée le musée de l'objet à Blois en 98. Et là, moi j'avais rencontré Bernard Belluc en 90. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, il complète ce que je voudrais donner à voir aux gens. Il le complète parce qu'il est d'une génération de 10 ans plus âgé que moi. Et donc, et lui, c'est les années 50 et 60, ses collections, alors que moi, c'est plutôt les années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui. Et plutôt mondiale que occidentale, que spécifiquement européenne, française, dirions-nous, chez Belluc. Et lui, en plus, il y avait toute cette partie nostalgie, toute son enfance qui était réunie à ses objets, le seul moment heureux de sa vie, etc., etc. Et donc, ça complétait bien cette recherche esthétique que j'avais.
Bernard Belluc, vous le connaissiez, c'était une figure à 7?
Non, parce qu'il habitait près de Leles, et figurez-vous que c'est la femme Hélène Arlal, qui est une artiste formidable, qui habite à Lansargues, qui est la femme de Jacques Durand, le plus grand critique taurin, écrivain taurin, que la Terre ait porté, et qui m'a un jour dit, il faut que je te fasse rencontrer un type formidable, tu vas voir, c'était en 90 exactement, et c'est à ce moment-là que je le rencontre. Donc je suis allé chez lui à près de Leles, et j'arrive chez lui, mais vraiment un musée en soi. Déjà, le MIAM, la partie nostalgique et tout ça du MIAM, sur l'objet, sur la réflexion de l'objet comme des miroirs pour les gens et tout ça était là déjà. Et donc c'est là où j'ai eu cette idée, et on a passé une soirée un peu alcoolisée, et à la fin on s'était dit on fera un jour un musée, mais c'était parole en l'air. Mais c'était pas parole en l'air pour n'importe qui, puisque Pierre-Jean Galdem nous invite en 98, une des premières expositions au musée de l'objet de Blois, qui était une préfiguration du musée des arts modestes. Et donc Bernard a exposé une partie de sa collection, et mon frère et moi on avait exposé, moi j'avais exposé sur toutes les éditions de la boutique et de la galerie de l'art modeste. On avait fait 400 référents, donc il y avait tout ce travail de t-shirts, d'objets, etc. qui était exposé. Et à ce moment-là, c'était, et alors comme quoi dirions-nous, la politique, j'y étais un peu de manière biologique aussi. Puisque finalement, comme Jacques Lang était le maire de Blois, qui a été formidable, il a toujours été formidable avec moi, et il a été passionné par ce projet, il en a parlé à Catherine Trottmann, qui était la ministre de la Culture à l'époque, et la mairie A7 venait de repasser, après deux mandats à droite, venait de repasser à gauche avec François Liberti, ils avaient aussi envie de faire un projet, et donc je me suis retrouvé dans une espèce de trame, comme ça, où il n'y avait que ma volonté au milieu de dire... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait un musée de l'art modeste?
Cette présence du politique dans votre existence, elle résonne avec le moment où vous revenez à Sète en 1986 et où vous vous réintéressez à la politique locale.
Oui, j'ai participé avec mon ami Jean-Claude Dugrip, qui était le directeur de cabinet du maire là, du maire d'aujourd'hui, François Comaine, qui, même n'étant pas du même bord que moi, a depuis 20 ans fait fonctionner le MIAM, parce qu'il faut dire que c'est un musée vraiment local, parce que 80% de son fonctionnement est municipal, c'est la ville. Et c'est vrai que à ce moment-là, on avait organisé dans les années 90 des événements à 7 qui s'appelaient 7 à peindre, 7 et demi, etc., où on invitait pas mal d'artistes. Il y a tout le temps eu une volonté comme ça. Ça me rappelle aussi, quand j'avais 15-16 ans, j'ai aidé à faire le Rodiz au Théâtre de la Mer pour aller voir Little Bob Story, Star Shooter, Bijoux, c'est comme ça qu'on voyait les groupes. Donc et c'était les associations qui s'occupaient de ça, c'était pas du tout des gros tourneurs comme aujourd'hui. Et donc ce côté associatif, je l'ai retrouvé là aussi.
Dans les étapes de préfiguration du Miam, il y a aussi le moment de la caravane. Vous avez fait une caravane jaune en vous appuyant là aussi sur un projet qui était initié par Jack Lang.
Tout à fait, c'était l'été des caravanes. C'est fou parce qu'il y avait des projets quand même assez dingues à l'époque, je trouve, dans les années 80 et 90. Alors on peut critiquer parce qu'il y a eu vraiment des exagérations. Je suis le premier à critiquer fortement ce ministère, mais il y a eu des choses tellement merveilleuses. Comme ils avaient, il n'y avait pas des gros budgets, il y avait des tout petits budgets, mais ils avaient demandé à une vingtaine d'artistes ils avaient donné une caravane et de l'aménager. Et donc il y avait aussi bien Ben, Kester Malongo, il y avait des artistes formidables de tout horizon. Et moi j'en avais profité avec Marle Brie, qui était un de mes anciens étudiants. Enfin, j'ai été prof 3 mois aux Beaux-Arts de Nîmes, donc et il était élève à ce moment-là, il est artiste aujourd'hui, et on avait conçu ensemble toute le design de l'intérieur, qui est un design très très complexe, qui m'avait coûté assez cher à l'époque, puisque c'était au-delà de la production du ministère.
Qui consistait en quoi, ce design ?
C'est des toutes petites cases vitrées, où des séries sont alignées, des séries de figurines. C'est une caravane spécialement dédiée à la figurine, vraiment à mon socle de l'art modeste, qui est la figurine. Il y a l'extérieur, surtout dédié aux céramiques de fond marin, céramiques de Valoris, céramiques un peu industrielles que j'adore, qui sont semi-industrielles, semi-artisanales, que j'adore, dites de Valoris, mais qui ne sont pas les vraies céramiques de Valoris. Et tout ça a fait que c'était le même moment où je rencontre Bernard Belluc, donc il y a une espèce de temporel, de flux temporel qui se rencontre. Donc j'avais déjà cette idée. Il n'y avait pas marqué musée des arts modestes sur la caravane, il y avait marqué art modeste. Et donc c'était un mini-musée qui se déplaçait avec les autres, qui s'est déplacé en toute la France avec les autres, que j'ai récupéré par la suite et qui a été un peu la base, les fondations du futur Miam.
Le Miam, c'est donc un musée créé par des artistes, c'est pas un musée d'artistes puisqu'il n'est pas exclusivement fait pour montrer votre œuvre.
Mais d'ailleurs, on voit pas.
On n'y voit d'ailleurs pas du tout votre peinture. Qu'est-ce que ça crée comme spécificité d'être un musée créé par des artistes ?
Oui, la volonté, moi j'avais dit à la ministre, Madame Trottmann, à cette époque il y avait ce fameux rapport sur les centres d'art français qui recevaient très peu de public local en fait, et que leur public était extrêmement parisien, genre consortium et compagnie. Et moi je lui avais dit, j'étais très optimiste, avec le budget d'une exposition au Grand Palais, je fais un musée pérenne. Et on a eu la chance aussi de rentrer dans ces événements de l'an 2000. Et donc, en fait, c'était une espèce d'œcuménie, ce qui a été aussi aujourd'hui, une espèce d'œcuménie politique, puisqu'il y avait Jacques Lang et Madame Trottmann aux manœuvres gouvernementales. C'était Monsieur Ayagon, Jean-Jacques Ayagon, qui était à la commission de l'an 2000, avec Jean Deloisy, qui nous a aidés cette fois-là.
Qui dirigeait.
Et la nouvelle mairie communiste de Sète, qui est avec François Liberti à sa tête. Et donc, ce truc étrange s'est mis en marche. J'y ai beaucoup cru. Bernard Belluc et puis Pierre-Jean Galdin a beaucoup travaillé. On s'est fait aider au début par quelques artistes, quelques écrivains, quelques penseurs, parce qu'ils n'avaient pas trop confiance en moi au niveau pensée. Mais très vite, j'ai pris ça en main, très vite, j'ai pris ça très au sérieux. Je me suis aperçu que des projets comme ça, où on pouvait faire voir des artistes qu'on ne voyait pas ailleurs, parce qu'on est quand même monomaniaque en France, et on voit quand même beaucoup les mêmes, souvent. Il y a des pans entiers de la création qu'on ne voit pas. Par exemple, on peut reparler du Centre Pompidou, mais ça, c'est vraiment le cas typique. Et donc, je voulais donner une nouvelle voie, d'autres images, d'autres choses, à faire venir l'ailleurs, à Sète aussi, parce que localement, pour moi, c'est très important, international, de faire venir mon ami Manuel Ocampo de Manille, ou Curro González de Séville, ou mes amis de Providence, etc. Tous ces artistes-là qui viennent à Sète, c'est très important que les gens à Sète voient les œuvres d'ailleurs, de voyager, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de voyager comme moi. Et c'était donc aussi ce lieu, les bases de l'art modeste aussi, regarder différemment, regarder ailleurs, regarder à côté, et faire voir les références aussi des œuvres d'art qui étaient exposées.
À l'origine du projet, il y a aussi un troisième artiste avec Bernard Belluc et vous, qui est Frédéric Roux, qui était membre du collectif Présence Panchounette, qui a été actif de 68 à 90, et qui a été le premier directeur artistique du musée.
Oui, parce qu'ils avaient, Pierre-Roger Galdet n'avait pas confiance en moi. J'étais trop punk.
C'est pour ça.
Et donc, c'est pour ça qu'il a engagé Frédéric Roux, qui est un très bon écrivain, je dois dire, mais qui n'est pas quelqu'un de très sympathique avec qui on peut travailler, malheureusement. Et donc, au bout de 2 ans, ça s'est mal passé. Il faut dire aussi que, au bout d'un an, la mairie qui a créé le lieu perd. Et heureusement que je suis de 7, et heureusement que François Comaine, qui a été élu et qui est le maire depuis 4 mandats, là, depuis 20 ans, il est maire depuis 20 ans, il fait marcher le Miam, parce que c'est lui qui le fait marcher, ça a été quand même un choc, parce qu'on pensait que le musée allait fermer, etc. Et heureusement qu'il y a des gens intelligents des deux côtés, pour pas que ça soit fermé. Une histoire très complexe. Donc, Frédéric Roux, là-dedans, tout de suite, est passé vite, vite à la trappe. Et puis, il y avait un côté chez lui, on s'entendait sur certaines choses, mais il y avait un côté de, un peu de moquerie, un peu d'imprésence panchounette. J'ai l'impression qu'il y a un recul sur le kitsch, etc. Et j'aimais pas trop cette idée sur le kitsch. Bon, il avait une idée politique assez parallèle à la mienne, mais par contre, il avait quand même un peu de dédain. Et beaucoup de dédain pour tous les autres artistes. Mais finalement, ce changement, etc., donc cette réduction de budget, cette remise en marche avec la mairie et tout ça, ça a fait que je l'ai repris les choses en main. Ça a été super difficile. Je ne pensais jamais que ce musée tiendrait 20 ans. Franchement, c'était une expérience. Et chaque exposition a été pendant longtemps un accouchement douloureux, parce que des expositions complexes avec des petits moyens, en invitant des gens improbables.
Donc le Miam, ce sont des artistes à l'origine, des soutiens et des appuis politiques et administratifs, mais c'est aussi une équipe aujourd'hui. C'est presque une famille, le Miam.
Oui, oui, aujourd'hui, avec Pascal, Sylvie, aujourd'hui Françoise qui rentre, et surtout
Françoise Adamsbaum
qui rentre à la direction, et surtout mon conseil d'administration, qui sont beaucoup de y a, j'ai quelques retraités du ministère des Affaires étrangères, j'ai encore Norbert Dufort et Claude Almancosno, Jeanne Boyer qui est de 7, qui nous fait un travail énorme sur place, il y a Stéphane Malfette maintenant qui est aussi en administration, enfin, et Norbert Dufort qui était aussi un ancien du ministère.
Tout ça
parce qu'on est quand même, pendant longtemps, ce musée a marché avec cette bande de bénévoles un peu. Bon, on a 2 salaires. Il y a 2 salaires associations à 2 salariés, Pascal et Sylvie, qui font leur travail parfaitement, et puis la mairie à tous les employés municipaux. Et ça, c'est assez complexe de gérer aussi une association en accord avec le fonctionnement de la municipalité. Et par contre, là où le génie de Pierre-Jacques Galdin et de Thierry Angle qui ont construit déjà, c'est de m'avoir fait rencontrer Patrick Boucher, l'architecte. Ça a été un coup de génie de leur part. Et surtout de donner toute liberté à l'association, de donner liberté totale au niveau financier à l'association, sans être en régie directe. Ce qui nous pose quelques petits problèmes parfois parce que les budgets sont limités, mais ce qui nous donne une liberté de faire ce qu'on veut.
Alors justement, Patrick Bouchain, c'est donc l'architecte qui a mené la réhabilitation du lieu. Le lieu qui est un ancien chai au bord du canal, au bord d'un canal de Sète. Patrick Bouchain, il est connu pour avoir été un des pionniers de réaménagement d'anciens sites industriels. Comment vous avez pensé ce lieu avec lui ?
Ça a été la rencontre. Autant Pierre-Jean Galdin a été très important, Jacques Lang, Madame Trottmann, le maire de Sète, etc. Tout ce monde a été très important. Patrick Bouchain avait vraiment une vraie pensée, et c'est lui qui m'a fait m'intéresser à l'architecture. L'architecture, alors, c'était un truc totalement étranger à moi, comme quand je me suis intéressé à l'opéra au début des années 90, je fais des cours d'opéra, qui était un truc très lointain de moi et qui après m'a porté. Là, pareil, l'architecture, il m'a fait découvrir Rudowski, avec l'architecture du quotidien et tout ça. Et voilà. Et ça m'a, il a été un maître pour moi en espace. Et d'ailleurs, je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Isabelle Allégret, qui était son assistante, qui est notre scénographe aujourd'hui. Et il m'a dit, c'est un chai, on casse tous les trucs, on casse tous les sols, etc. Et on va faire de grandes étagères pour exposer tes objets. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est les 2 mezzanines qui sont des étagères où on peut poser de gros objets. Et après, la partie administrative, qui était un vrai petit immeuble de 3 étages, c'est toi, du bord de canal, qui est Maréchal de Lattre Tassigny. Là, il a gardé les tomates, il a tout gardé, comme il fait là. Et juste, il a aménagé pour que ce soit avec l'ascenseur, que ce soit aux normes. Il a mis aux normes. Et ça, je trouvais formidable. Dans le délire architectural, dans lequel on était, dans les années 80 et 90, surtout, avec ce délire aussi sur l'art contemporain, qui après la première crise de 93 a repris de plus belle des délires de immodestes, quoi. C'est pour ça aussi que l'art modeste est arrivé dans les années 80. C'est parce que c'est un rejet aussi de tout ce, cette espèce de pas de paillettes, parce que j'aime les paillettes, mais là c'est plutôt des ouvrages lourds, quoi. C'est comme certaines œuvres d'art d'aujourd'hui, c'est des ouvrages lourds qu'on fait en architecture. Et Bouchel, lui, me propose un truc super léger et qu'on pourra partir demain. Demain, on enlève tout, hop, on récupère le bâtiment. On était là, on n'est pas là, rien n'est pérenne.
D'emblée, quand vous avez conçu le musée, vous avez décidé de mêler des œuvres contemporaines, par exemple des œuvres d'Armand, à des œuvres d'art modeste dans le parcours. Pourquoi cette position et qui est en fait le public? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, à qui vous vous adressiez?
En fait, c'était la suite de la galerie de l'art modeste, c'était élargir le public. Ce qui m'intéresse, moi, c'est élargir le public. C'est pas aux artistes à changer. C'est pas à Buren ou à Boltanski à changer leur travail. C'est à le présenter d'une manière particulière. Et moi, ce que je voulais, c'était aussi cette référence aux sources, d'essayer de faire voir les œuvres et leurs sources. Donc, quand on voyait le porte-parapluie Jeff Koons en céramique, il y avait aussi les figurines en céramique qu'on trouve à la foire, etc. Des histoires très simples. Et aussi, comme c'est une exposition thématique, c'était cette transversalité qui n'était pas usuelle en 2000, en fin 90, 2000. Vraiment une transversalité où on pouvait trouver de l'art brut sur une thématique, on pouvait aussi bien trouver de l'art brut que de l'art populaire, que de l'art modeste, de l'art création contemporaine anciennes ou des artistes récents, émergents et tout ça. C'est ce mélange-là qui m'intéressait et aborder des sujets que personne n'a abordés, comme la narcoculture ou le sucre ou en fait
les shaddocks. Des villes aussi, comme Winnipeg.
Ouais, des villes comme Manille, Winnipeg. Et puis, des émissions de télé. Comme on a dit les shaddocks, mais Groland. Et on a fait un gros travail avec Benoît Delepine et Moustique. Et Christian, ils nous ont offert un truc énorme au Miam, c'est-à-dire ils nous ont offert un public qu'on n'avait pas. Et ils avaient croisé tout leur décor, objets, etc. de leur émission de télévision plus vidéo avec une série d'œuvres choisies dans la collection d'Antoine de Galbert que Benoît Delepine et Christian ont choisi. Et donc il y avait des gens qui n'étaient jamais venus dans un musée de leur vie, dans un centre d'art, tout ça, et qui étaient devant une œuvre de Claude Lévesque ou d'Alex Barbier et qui signifiaient. Parce qu'elle était entourée d'autres objets. Je sais pas de quelle manière. Moi, c'est pas une scénographie. C'est une scénographie pas réellement construite d'un point de vue intellectuel. C'est plutôt des sentiments, des sensations qui s'opposent, qui se dialoguent, qui sont à côté de manière un peu pragmatique finalement toujours. Et ça fonctionne. Et au Miam, quand ça fonctionne comme ça, c'est formidable.
Et c'est comme ça que vous pensez l'équilibre de la programmation?
Oh, l'équilibre, la programmation est totalement déséquilibrée, ça j'y tiens. Non, la programmation, c'est surtout la liberté. Là, on prépare pour le 20e anniversaire un grand événement avec le Louvre. Ça, c'est vraiment presque l'antinomie du Miam, mais pas vraiment. C'est pour ça que le Musée international de Vendée va expliquer qu'on est, que nous, on est le Louvre du futur, finalement. Finalement, on est dans cette direction-là.
Alors, la grande question, Hervé Durosa, ce musée est très singulier. Est-ce que c'est une œuvre de vous?
Ça, c'est à vous de me le dire. J'espère, parce que pour moi, chaque exposition, chaque catalogue, là, je viens juste de recevoir le catalogue du dernier cri, là, de l'exposition actuelle, le Paquito Bolino, qui est une exposition qui regroupe 27 ans d'un travail extraordinaire. Une exposition qu'on prévoit, j'ai plein de... Voilà, parce que je me suis posé le problème du Miam, il a été question, à un moment donné, de le déplacer et de l'agrandir, parce qu'on est un peu à l'étroit, on peut pas développer, moi ce qui me désole, on peut pas développer une librairie par exemple, on peut pas développer un endroit pour s'asseoir, pour manger un morceau, etc. C'est très important, et puis au Miam plus qu'ailleurs, parce qu'il y a un côté d'échange, et les expositions sont orchestrées aussi pour que l'entrée soit un lieu aussi d'échange, où on s'assoit, on regarde des choses, et on peut pas s'agrandir, et surtout j'aimerais donner à voir toutes les collections qu'on a accumulées depuis 20 ans, que ce soit mes caravanes qu'on peut pas voir, qui sont garées dans les storages, et toutes les œuvres d'art et objets qu'on a accumulés et qu'on aimerait faire voir. Alors bon, peut-être que ce projet se fera ou pas. En tout cas, ça m'a posé la question de l'utilité du Miam dans le futur.
Pour ce nouveau lieu éventuel, on vous a en fait proposé un endroit et vous avez choisi l'architecte. Et cet architecte, c'est Rudy Ricciotti qui a fait le Mucem à Marseille,
qui a fait le Mucem, mais j'aime bien son truc très simple aussi. Et là aussi, ce sera une rénovation, parce que ce sont des anciens chais, normalement. Et là, Rudy Ricciotti fera une rénovation. Ce sera pas... Mais qui défait complètement. Donc, qui change... Celui, il change complètement sa fonction, il change complètement la circulation, uniquement avec des panneaux de béton. Ça me plaît beaucoup parce que c'est aussi une architecture pauvre, comme Bouchain finalement. Hein. C'est pas si différent, c'est différent dans la vision, mais dans la fabrication, c'est des plaques de béton faites, il est très près des artisans. Rudy Ricciotti, pareil que Bouchain, est très près des artisans, il travaille vraiment près avec ses jeunes architectes, avec le carreleur, avec le plombier, avec... Vraiment, il a fait un très beau lieu dont j'ai eu l'honneur de faire l'entrée. C'est le centre culturel et social Aimé Césaire à Gennevilliers. Et j'ai aménagé toute l'entrée des énormes sculptures et des énormes tapisseries qui tapissent toute son entrée. Et c'est très beau. Il a fait un bâtiment tout blanc avec des fentes dessus comme un fontana. C'est un amateur d'art contemporain. Donc on verra, c'est un projet qui est en cours. Mais je me suis demandé, est-ce que le MIAM est aussi indispensable aujourd'hui pour faire voir ce qui est à voir qu'il y a 20 ans.
Avant de s'interroger là-dessus, je voulais parler du contexte dans lequel le MIAM se trouve, qui a pas mal évolué. Dans nos premières conversations, on parlait du paysage muséal de Sète de votre enfance, dans lequel en fait il n'y avait pas de musée, l'ouverture du musée Paul Valéry en 1970. Aujourd'hui, à Sète, il y a 3 musées, il y a donc Paul Valéry, vous, et le Centre Régional d'Art Contemporain, le CRAC, qui a ouvert en 97. Comment vous vous positionnez par rapport à ces institutions dans la ville, mais aussi plus largement dans la région, où il y a aussi le musée d'art contemporain de Sérignan, qui est très dynamique, et à Montpellier, le MOCO, qui semble justement beaucoup dépendre du politique, mais quand même très dynamique. Comment vous vous situez là-dedans ?
Ah, mais moi, formidable. Déjà, le MIAM, comme le CRAC à Sète et comme le Musée d'art contemporain de Sérignan, est financé aussi par la région. On a une présidente de la région, Carole Delga, qui est formidable en ce moment et qui aide à ces projets-là. À Montpellier, si l'expérience peut durer, ce serait formidable. Moi, plus il y a de lieux. En fait, le MIAM...
Montpellier qui a ouvert récemment une nouvelle structure formée de l'école d'art et d'un centre d'art.
Voilà, de deux centres d'art.
Et d'un hôtel des collections.
Le MOCO et la Panacée. Ils ont offert une structure très belle. Je ne sais pas si politiquement c'est viable, parce que c'est ça. Maintenant que je commence à comprendre, moi j'étais très naïf. Quand je suis arrivé président du MIAM, je ne savais même pas ce que c'était un CDI. Et je me prends deux prud'hommes tout de suite. Et donc, moi, étant président, je devais m'en occuper. Bon, heureusement que j'avais des gens qui m'ont aidé autour de moi. Hein. C'était fort bien, mais c'est très compliqué. Parce que moi, au départ, là où certains n'ont pas compris, c'est que le MIAM n'est pas une alternative au centre d'art. Moi, quand le centre d'art a fermé une première fois, je crois, dans les années 90, on avait fait des manifestations pour les rouvrir. Ça a été aussi un combat politique pour ce centre d'art, pour rouvrir, etc. Nous, le MIAM, on se pense à une position toujours marginale, mais qui est très utile, c'est-à-dire d'amener un public différent. Moi, si le plus de gens qui viennent, les gens qui viennent au MIAM, c'est une partie qui vont au CRAC, au centre d'art, le pari est gagné. C'est ça. Moi, je suis un pont vers le CRAC, vers le MOCO, etc. Je suis pas là pour faire le travail de spécialiste que font Nicolas Bourriaud ou la directrice actuelle du CRAC. Ils font un travail scientifique. On n'est pas là. Nous, le MIAM, on est comme une espèce de cavalerie légère qui a des petits moyens, mais qui peut aller de partout et faire ce qu'il veut.
Au MIAM, vous avez été finalement assez précurseur en montrant très tôt de l'art brut. Aujourd'hui, beaucoup d'art brut est montré. La Maison Rouge, certes, a fermé, mais dans les grands musées d'art contemporain, dans les biennales. Vous êtes intéressé à cette question du folklore. Le Centre Pompidou-Metz a consacré récemment une grande exposition à la question du folklore en y mêlant des objets traditionnels avec de l'art contemporain. C'est peut-être dans ces conditions...
Avec le MUCEM, d'ailleurs.
Et avec le MUCEM, bien sûr. C'est peut-être dans ces conditions que la question des orientations futures du MIAM se pose.
Tout à fait. Elle se pose... Bon, il y a toujours quand même une transversalité qui n'est pas totalement assumée. Même dans le folklore, etc.
Folklore à Metz, donc.
C'est des expositions qui m'intéressent, mais je trouve que ça va pas jusqu'au bout. Ça reste, bon, à avoir de bels objets, de quelques œuvres d'art intéressantes, mais ça va pas jusqu'au bout. Moi, je préfère quand ça va jusqu'au bout, et même quitte à se tromper. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, des territoires qu'on n'a pas défrichés et défrichés, les deux. Il y a les territoires de la peinture qui se vendent par milliers dans le monde, que moi j'appelle l'art commercial, dont on ne parle jamais. Alors c'est pas des des images qui me plaisent, mais qui existent, qui se vendent, qui peuplent des hôtels, des maisons, qui déplacent beaucoup d'argent, beaucoup de lieux, beaucoup de... Ça, par exemple, il y a plein de... encore de, d'endroits, de lieux sur ma carte, de territoires auxquels on n'a pas accès, auxquels on ne nous donne pas l'accès. Je pense que le MIAM est toujours utile, sera toujours utile dans ce sens-là.
Mais vous songez à lui donner une orientation encore plus recherche?
Voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que j'ai envie de comprendre et j'ai rencontré beaucoup de jeunes chercheurs de l'INHA, de l'Institut National de l'Histoire de l'Art, formidables, qui font des recherches dans des endroits, comment les artistes étaient payés dans les foires par rapport aux médailles qu'ils avaient, combien ça, enfin, c'est extrêmement important, parce que moi je pense que ce qui nous différencie entre artistes, c'est pas le style et l'époque, c'est la manière de distribuer son œuvre, la manière de la vendre, le prix, la manière de la produire. C'est comme ça que je suis peut-être un artiste pareil que je dis toujours cet exemple, comme Jeff Koons, mais en fait, j'utilise pas les mêmes manières de produire et pas les mêmes réseaux de diffusion, en fait. Mais pourtant, on est dans les mêmes magazines, des fois les mêmes musées, dans les mêmes choses. Donc, cette différenciation qui se fait. Et le mien, pareil. Si on garde, sur des spécificités, on arrivera toujours à... Et surtout, j'ai envie que ça reste un projet d'artiste. Alors, j'ai donné les clés du musée à Manuel Ocampo, artiste philippin très connu, à Curro González, à Guy Madine, cinéaste de Winnipeg. J'ai donné les clés à des artistes comme ça. Et je veux continuer... À Paquito Bolino, du dernier cri en ce moment. Et je veux continuer à les donner, parce que c'est un lieu d'artiste, c'est très important qu'il reste un lieu comme ça, marginal de tout le reste, parce que la vraie politique, c'est pas celle que je suis obligé de faire en allant voir ma présidente de région ou François Comen, maire de Sète, etc. C'est pas ça la vraie politique. La vraie politique, c'est comment les ministères, les musées français fonctionnent. C'est ça la vraie politique complexe. Et moi, là, ce que j'ai appris le plus au MIAM, c'est comment diriger un budget, en fait. Comment, avec un budget, on fait une exposition. Parce que ça, on ne le dit jamais quand on fait une exposition dans un musée. Aujourd'hui, quand on me propose une exposition dans tel ou tel lieu, je sais... les lignes budgétaires, comment ça fonctionne et tout ça. Vous voyez, ça, c'est un apprentissage énorme que j'ai eu grâce au MIAM. Mais il faut que j'ai toujours cette envie d'apprendre et de faire, sinon ça ne pourra pas fonctionner.
Et du point de vue du contenu, il se trouve que toutes ces réflexions que vous menez au MIAM depuis 40 ans résonnent singulièrement avec un certain nombre de préoccupations qui traversent aujourd'hui la société entière.
Ouais, ça me fait plaisir de raisonner comme quand, par exemple, la première exposition d'art brut personnelle de Carlo Zinelli, c'est nous qui l'avons fait au début des années 2000. Quand j'ai vu la même exposition à la Biennale de Venise 20 ans après, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, ces préoccupations avec les universitaires, avec la pédagogie aussi. Alors, je me suis jamais intéressé à la pédagogie, jamais voulu être prof, contrairement à mon grand ami François Boron, qui est d'ailleurs un excellent prof aux Beaux-Arts de Paris, mais jamais été attiré par ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être une autre manière d'apprendre l'histoire de l'art, une autre manière d'apprendre l'histoire des formes et des objets, et je pense que le MIAM peut être un outil dans cette direction.
Merci Hervé Di Rosa pour ce voyage dans lequel vous nous avez emmené cette semaine dans vos mondes et sur les territoires de l'art modeste.
C'est dommage qu'on ne se voit pas demain.
Je suis d'accord.
Fin de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Hervé Di Rosa. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Sébastien Huel, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.